Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Déjà, 8 États américains ont interdit l'avortement, un droit qui remontait à 1973 et qui a été abrogé par la Cour suprême à la veille du week-end. L'Amérique ultra-conservatrice entend imposer son agenda aux États-Unis. L'Info C'est Clair est intitulé « IVG, arme à feu, l'Amérique fracturée ». Nos invités, Marie-Cécile Na, vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, auteure de La démocratie féministe, réinventer le pouvoir, c'est aux éditions Kalman-Lévy. Laurie Kenton, vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, chroniqueur au magazine Rolling Stone, auteur du rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, c'est aux éditions Vendémiaire. Et Gallagher Fenwick, vous êtes journaliste franco-américain, vous venez de publier un livre sur Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, c'est aux éditions du Rocher. Merci de participer à cette émission en direct. Donc l'IVG, on l'a dit, déjà interdit dans 8 États américains, c'est la conséquence donc de la décision vendredi de la Cour suprême américaine d'abroger le droit à l'avortement au niveau fédéral, droit qui datait de 1973 et qui s'est donc éteint vendredi dernier, sujet de Rémi Mauquillon.
Un séisme qui continue de diviser l'Amérique. Hier, pour une troisième journée consécutive, les manifestants en faveur de l'avortement criaient leur colère. Partout dans le pays, les mêmes discours, les mêmes craintes.
Les autres pays nous regardent. Ils attendent de nous que nous soyons des leaders sur la question des droits de l'homme. Et les droits des femmes sont essentiels à ce succès.
Nous sommes venus ici aujourd'hui parce que nous sommes malades et fatigués d'avoir peur.
En Californie, à Los Angeles, la tension est montée entre les manifestants et la police. Autre ambiance au Texas, où l'avortement a été rapidement interdit suite à la décision rendue par la Cour suprême. Un choix qui réjouit les conservateurs, souvent issus de la droite religieuse.
On est ici pour soutenir la vie. Vie, c'est la preuve vivante que la vie est précieuse.
Je crois vraiment que le Texas donne l'exemple à tout le monde. Et j'espère que d'autres États suivront. Et qu'avec un peu de chance, l'avortement sera totalement interdit.
Alors Marie-Cécile Nave, c'est un peu compliqué ces histoires institutionnelles américaines. Ce qui s'est passé, c'est que vendredi, donc la Cour suprême a dit, bah voilà, au niveau du pays, l'avortement n'est plus un droit et chaque État fait ce qu'il veut, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est la remise en cause d'une jurisprudence, c'est-à-dire une décision qu'elle-même avait prise en 1973. C'est la première fois que la Cour suprême revient sur une de ses anciennes décisions quand il s'agit d'éliminer un droit. Et donc, la porte est ouverte à l'élimination d'autres droits, parce que c'est une contestation de ce qu'il y a dans le 14e amendement, qui est aussi la base de la décision 2015 autorisant le mariage entre personnes de même sexe, autorisant la contraception dans les années 60, etc. Donc c'est la porte ouverte.
Elle considérait en 73 qu'au nom de la liberté, on avait le droit, les femmes avaient le droit d'avorter, et aujourd'hui, la Cour suprême se réveille en disant « mais en fait, ce n'est pas dans la Constitution qui date alors, du 18e siècle. Hein »
Oui, 19e siècle.
18e, du 19e, oui, parce qu'elle a dû être écrite.
Oui, c'est ça. En fait, elle s'appuyait en 1973 sur le 14e amendement qui parle de droit à la vie privée, de droit à l'intimacy. C'est une question de vie privée. Et en fait, une des justifications écrites par les 6 juges conservateurs et qu'on peut qualifier aujourd'hui, au moins pour 5 d'entre eux, d'extrême droite, c'est que dans l'esprit de la Constitution au XIXe siècle, eh bien, l'avortement n'était pas explicitement autorisé. Mais à l'époque, les femmes n'étaient pas des sujets de droit. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le droit de disposer de leur argent. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine vision des femmes dans la société américaine, dans la tête de ces gens-là, qui pose question et qui est une sorte de nostalgie de l'Amérique patriarcale qui ne correspond absolument pas à ce que pense la population américaine, puisque les 2/3 de la population américaine étaient favorables au maintien de Roe.
Mais c'est ça qui est incroyable, Marie-Cécile Nave vient de le dire, Gallagher Fenwick, sondage Washington Post, 70% des Américains pensent que l'avortement est une question privée entre le patient et le médecin. Le peuple américain dans son ensemble n'est absolument pas contre l'IVG ?
On parlera du problème institutionnel qui gangrène la question de la représentativité des institutions à l'égard de la population. On a le sentiment d'assister à une sorte de prise d'otage de la part d'une minorité ultra-conservatrice, très bien organisée, qui mène ce combat depuis des décennies et qui, eh bien, atteint des niveaux paroxystiques en termes d'influence sur la vie réelle, concrète des Américains. On le voit à la Cour suprême, on le voit au Congrès également.
Parce que Donald Trump a nommé avant de partir...
Donald Trump, qui a gagné le vote grâce au collège électoral, mais qui a été battu par Hillary Clinton lorsque cette dernière était candidate démocrate, de plus de 3 millions de voix. Et là, quand on parle des 26 États qui s'apprêtent à totalement interdire l'avortement, certains d'entre eux en maintenant quand même certaines conditions, mais d'autres totalement, quand on regarde la population que ça représente versus les autres États américains, on a quand même le sentiment d'un énorme déséquilibre. Vous parliez de deux Amériques face à face. Moi, je pense que c'est plus grave que cela. Ce sont deux Amériques dos à dos qui partagent de moins en moins de choses en commun.
C'est vrai que, Laurie Kenton, sur les 9 juges de la Cour suprême, Donald Trump en a nommé 3. Hein, et c'est ce qui a fait basculer la... ce qui a permis d'abroger le droit à l'IVG. Il a même, vendredi soir, Donald Trump s'est félicité. Il a dit « c'est la volonté de Dieu ». Je crois que lui-même, d'ailleurs, n'est pas très catholique pratiquant, mais ça veut dire qu'il y a une aspiration théologique, au fond, dans cette façon de gouverner l'Amérique.
C'est une façon de présenter les choses. Donald Trump n'est absolument ni croyant ni pratiquant. C'est un républicain de New York à l'origine, et donc il était très pro-avortement jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait besoin d'être anti-avortement. Donc il n'a pas vraiment de colonne vertébrale idéologique, donc il dit ce qui le sert. En même temps, ce qu'on sait, c'est que autant il s'est félicité de cette décision publiquement, mais en privé, il s'inquiète des conséquences électorales que ça pourrait avoir en termes de mobilisation des démocrates pour les midterms et pour 2024.
Parce que du coup, les électeurs américains qui sont majoritairement pour le droit à l'IVG pourraient dire « bon, alors là, il y en a marre, on va voter à droite, on va voter à gauche, on va voter démocrate ».
Alors, dans certains États, la question ne va pas se poser. On a vu des images de Californie. La Californie, ça ne va pas avoir un impact électoral, puisque de toute façon, c'est démocrate. Dans pas mal d'États républicains, ça n'aura aucun impact électoral. Mais il y a tous les États un petit peu en balance où l'électorat qui fait la différence, ce sont les femmes de banlieue qui sont prêtes à voter républicain pour des questions économiques ou des questions fiscales. Mais dès l'instant où on touche à certains droits qu'on ne considérait plus comme des sujets électoraux, à ce moment-là, ça peut avoir un effet de mobilisation. Mais il faut relativiser ça, parce qu'on est en période d'ultra-inflation, de pénurie.
Ah, donc Joe Biden est impopulaire à cause de ça.
Alors, Joe Biden est impopulaire parce que les choses n'avancent pas. Et donc, l'une des questions qui peut se poser, c'est la balance entre l'avortement et des questions de vie quotidienne, d'économie, d'inflation, de pénurie, etc. Est-ce que je vais voter pour les démocrates qui n'ont pas l'air d'arranger les choses donc, la question
pour mon portefeuille.
Ou des questions d'approvisionnement en lait en poudre ou ce genre de choses, des choses très concrètes. Donc, en fait, c'est pas un sujet isolé, c'est un sujet dans d'autres sujets. Et donc la grande question sur la mobilisation, ça va être ça en novembre. C'est quel poids relatif, comme les armes, généralement, les armes, c'est pas un sujet en soi, c'est un sujet dans un panel d'autres sujets. Et la décision électorale va se prendre en fonction du poids relatif de ces différents sujets.
Gallagher-Fenn, oui.
Je fais une prédiction sombre. Je pense que, et vous avez totalement raison, Laurie, le problème actuel majeur et le plus prégnant politiquement parlant au sein de la société américaine, c'est la situation d'hyperinflation, qui entraîne quoi de manière très concrète ? Eh bien que le prix de l'essence à la pompe est plus haut qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire récente.
Et les Américains vont voter avec ça en tête.
Oui, mais qu'est-ce qui va se passer ? Les prochains sujets qu'on va couvrir. Quand vous supprimez au niveau fédéral le droit à l'avortement, les gens vont continuer de se faire avorter. Des centaines de milliers d'avortements par an aux États-Unis. Qui est-ce qui va être impacté ? Des femmes appartenant à des minorités. Lesquelles ? Des adolescentes noires américaines, latino-américaines, qui plutôt que d'aller dans des cliniques où elles peuvent faire ça en sécurité, vont faire ça chez des amis, chez des charlatans qui vont bénéficier de l'émergence d'un marché juteux.
Vous savez quoi, Gallagher-Fenwick ? Comme vous êtes franco-américain, on va écouter votre président s'inquiéter justement du sort de ces femmes qui vont devoir se faire avorter, on ne sait comment, et qui, dans certains cas, n'auront plus le droit. On écoute la réaction de Joe Biden.
Et les femmes sont aujourd'hui punies lorsqu'elles cherchent à protéger leur santé. Aujourd'hui, des femmes, des filles sont obligées de porter l'enfant du violeur qui les a mises enceintes. Vraiment, j'en perds mes mots. Les médecins vont être criminalisés, vont être pénalisés alors qu'ils font leur travail. Imaginez un peu. Imaginez qu'une femme doive porter l'enfant d'une grossesse, avec une grossesse étant le résultat d'un inceste, sans le choix. Et très souvent, ce sont les femmes les plus pauvres qui vont être le plus impactées. C'est cruel.
Marie-Cécile Nave, on a senti un Joe Biden très ému et touché par le sort de la souffrance que s'infligeront uniquement les femmes d'ailleurs. Hein, parce qu'on parle jamais. Ça ne concerne que les femmes, quoi. Deviennent des sous-citoyennes parce qu'elles ne sont plus maîtres de leur corps.
C'est ce que disent les trois juges progressistes de la Cour suprême. On va nier aux femmes, avec cette décision, la qualité de citoyennes libres et éclairées. Et effectivement, c'est à la fois une question de santé, parce que ce n'est pas juste une question de disposer de son corps, c'est une question de santé gynécologique, parce que parfois on avorte pour sauver sa vie. Grossesse extra-utérine, hémorragie, diabète de grossesse, etc. Donc c'est toute la santé gynécologique et l'accès à la santé des femmes qui est en question. Il y a des femmes, des milliers de femmes vont mourir à cause de cette décision. Il faut être clair, dans tous les pays du monde, on le sait, c'est ce qui se passe. Mais c'est aussi un enjeu économique. Et là-dessus, les féministes américaines se sont énormément mobilisées depuis samedi, mais aussi Hillary Clinton et d'autres, disent finalement, on va nier aux femmes leur indépendance économique, le droit de faire des études, le droit de vivre sa vie librement. Et comme Biden le laisse entendre, mais d'autres aussi, responsables politiques comme Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres encore, ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que les États conservateurs, qui ont le vent en poupe, vont essayer de pousser des lois qui interdiront aux femmes de sortir des États pour aller avorter ailleurs, qui criminaliseront les médecins, etc. Donc là, on est dans une limitation.
On va traquer sur leur téléphone portable.
Aussi, celles qui s'interrogent sur la contraception, sur où sont les cliniques, etc. Il va y avoir un traquage des femmes, une limitation de la liberté des femmes. Et c'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas une question de pro-life ou de babies. C'est une question de contrôler les femmes, de contrôler leur liberté de mouvement, leur indépendance économique, leur droit à exister en tant qu'égal des hommes. Et la Constitution américaine, c'est la seule constitution en démocratie qui ne précise pas l'égalité entre les femmes et les hommes.
Sauf que, Laurie Kenton, on le sait, l'avortement a toujours existé depuis des siècles, des millénaires, sauf que quand il n'est pas encadré, il se fait de façon non encadrée.
Bien sûr.
De façon illégale, clandestine, où les plus riches peuvent voyager. Enfin, on se souvient, les années 60, des voyages aux Pays-Bas, des Françaises, pour aller avorter. C'est ce qui attend, c'est le sort de certaines des femmes qui vivent dans ces États.
Il va y avoir une géographie de l'avortement avec des États où c'est possible, des États où c'est pas possible. Il y a un certain nombre de grandes entreprises qui ont d'ores et déjà annoncé qu'elles financeraient le déplacement de leurs employés pour aller dans des États où c'est possible. Mais pour ça, encore faut-il être employé et employés de ces grandes entreprises. Donc il y a tout de suite une distinction à faire entre les femmes qui ont cette chance-là et les femmes qui ne l'ont pas. Après, il y a toutes les façons d'avorter par médicament et pas seulement par intervention chirurgicale qui se passent par Internet. On peut faire des consultations par Internet et ça va être très difficile pour les États conservateurs à réglementer. On peut se faire envoyer des médicaments,
des pilules abortives par la poste.
Donc ça veut dire qu'il va falloir que les États mettent en place des façons de contrôler ces trafics d'une certaine manière. Et donc d'un point de vue pratique, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont continuer à se produire. Le problème un peu technique de ces formes d'avortement, c'est que c'est limité à peu près à 8-10 semaines. C'est interdit après, plus vraiment possible. Donc il y a aussi la question, non pas seulement de l'avortement, oui ou non.
On peut ralentir le process.
Mais jusqu'à quand ? Et la plupart des décisions qui ont été prises dans les États, Texas et Mississippi, c'était sur le délai en fait, pendant lequel l'avortement était possible.
Alors vous l'avez dit, vous en avez parlé tout à l'heure, après le droit à l'avortement, est-ce que la Cour suprême pourrait revenir sur d'autres droits ? On pense au mariage gay, on pense aussi même à la pilule contraceptive. Quand je dis « on », ce n'est pas n'importe qui, c'est Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, on l'écoute.
Cette décision pose question sur les autres droits que nous pensions acquis, comme le droit à la contraception, le mariage homosexuel ou le droit au mariage interracial.
Alors, Marie-Cécile Nave, on ne comprend absolument pas pourquoi ces gens qui sont les plus puissants du monde, on parle de Joe Biden, de Kamala Harris, ont l'air d'être impuissants, démunis, face à ces 9 juges qui sont à la Cour suprême. Et alors, ils sont en plus indélogeables, ces 9 juges. Enfin, qui sont-ils pour, on a l'impression, vu de loin, pour imposer leur ordre aux 300 millions d'Américains.
Oui, sans nommer à vie. C'est une disposition qui aujourd'hui pose question, puisqu'elle a été prise à une époque où l'espérance de vie n'était pas celle d'aujourd'hui. Ils ne sont pas là par hasard. Ce ne sont pas des nominations qui tombent du ciel. C'est des nominations qui ont été poussées par un militantisme de terrain extrêmement puissant, extrêmement patient depuis les années 80, qui a vu une conjonction entre la droite évangélique et un peu plus tardivement, mais quand même la droite ultra-droite catholique, les lobbies d'extrême droite, exemple la Federalist Society, un lobby qui a dit à Donald Trump quel juge il devait nommer à la Cour suprême, et puis un opportunisme du Parti républicain. Et puis il y a une obstruction démocratique des républicains pour arriver à ce résultat-là. C'était par exemple un exemple très concret, en 2016, Mitch McConnell, leader républicain du Sénat, interdit, bloque la nomination par Barack Obama d'un 9e juge, Merrick Garland, qui aujourd'hui est le ministre de la Justice. Mais il a permis en 3 semaines l'audition et la nomination de Amy Coney Barrett.
Ils ont noyauté, les ultra-conservateurs, ont noyauté la Cour suprême, qui est l'équivalent de notre Conseil constitutionnel.
C'est le Conseil constitutionnel, plus le Conseil d'État, plus la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une sorte de super cour qui n'a pas d'équivalent en Europe.
Gallagher Fenwick, est-ce que ça veut dire que les démocrates ont été un peu naïfs en laissant faire ainsi
Barack Obama, lorsqu'il était président, l'a été, par, on peut dire, sens du civisme face aux arguments avancés par Mitch McConnell. Ce qu'il veut bien comprendre, c'est qu'on assiste à un glissement partisan très dangereux de ce qui est la plus haute juridiction du pays aux États-Unis et qui, en ayant sur ses bancs des gens nommés à vie, devait être indépendante et littéralement au-dessus, justement, des débats et des lignes partisanes. Mais aujourd'hui, cette cour, ça c'est son avantage, est très prévisible, mais en cela, elle est en train de perdre la confiance, voire le respect d'une vaste majorité des Américains. Ça, c'est très très grave. Vous mentionniez un sondage tout à l'heure, il y en a un autre de l'Institut Gallup. Seul un quart, 25% de la population américaine a confiance dans cette Cour suprême. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de Roe versus Wade.
Vous dites qu'ils ne sont plus là pour appliquer la loi, ils font de la politique.
C'est un peu ce qu'on leur reproche. En 1973, 7 juges contre 2 ont approuvé Roe versus Wade, c'est-à-dire ont donné le droit fédéral. Sur les 7, il y avait 5 républicains, dont 3 qui avaient été nommés par Richard Nixon. Il y avait un autre républicain, avec à ses côtés un démocrate qui s'y était opposé. C'était l'époque où on ne se prononçait pas quand on était juge à la Cour suprême en fonction de la personne qui vous avait nommé. Aujourd'hui, on a ces espèces de, pardonnez l'expression, de juges qui sont inféodés à l'idéologie du président qui les nomme. Et ça, c'est gravissime pour cette institution.
Alors, Laurie Kenton, dans l'intervention de Joe Biden, il a appelé les Américains pour faire barrage à cette influence ultra-conservatrice qui vient de la Cour suprême. Il a appelé les Américains à voter démocrate aux élections des midterms. Qu'est-ce qui empêche les Américains de voter démocrate et d'avoir ainsi, on pourrait très bien imaginer que les élus démocrates fassent passer une loi, comme nous on a eu la loi Veil, une loi qui autorise au niveau fédéral pour tous les Américains l'avortement. Et du coup, ces États seraient hors la loi. Est-ce que je dis une bêtise en disant ça ?
Non, la question, en fait, elle est assez complexe et que ça se joue à différents niveaux. Le problème, c'est que la Cour suprême, souvent, justifie ses décisions, quelles qu'elles soient, parce qu'elle se prononce dans des vides juridiques. Elle dit, s'il y avait une loi fédérale, on n'aurait pas à se prononcer.
Il n'y a pas de loi fédérale sur l'avortement.
Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir... Alors, il y a deux choses. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il n'y a pas de loi du tout, parce que le Congrès est complètement bloqué par l'obstruction des Républicains, essentiellement. Et qu'il y a des systèmes de majorité qualifiée où il faut avoir 60 et pas 50 sénateurs pour faire passer n'importe quelle loi. Donc, il y a des blocages institutionnels qui font que il y a des vides juridiques. Ensuite, il y a un certain nombre de questions, les questions de santé, les questions d'éducation, les questions de déroulement des élections, qui sont généralement dévolues aux États. Ah, et donc, là, ce qui se passe, c'est que les États sont aussi des petites démocraties. D'accord. Et ce qu'on a vu avant et après 2010, c'est que les démocrates contrôlaient la plupart des chambres des États, dont on se fiche généralement parce que c'est des inconnus, on ne les connaît pas, et c'est vraiment un niveau très local. Mais c'est très important parce que c'est ça qui régit la vie des Américains au quotidien. À partir de 2010, il y a eu un basculement. Les républicains ont le contrôle de la majorité des chambres de plus en plus, et c'est un contrôle qui est de plus en plus solidement ancré à cause du redécoupage des circonscriptions qui fait que leur
c'est pouvoir... les petits États ruraux du centre. En gros, qui ont les clés de la démocratie américaine. C'est ce qu'on dit souvent, non ? Et c'est un peu...
D'une certaine manière, parce que le Sénat, et c'est sa fonction, surreprésente les États les moins peuplés. Et c'était fait, à l'origine, pour ne pas défavoriser les petits États, notamment du Nord, non esclavagistes, par rapport aux gros États esclavagistes qui étaient représentés à la Chambre.
Marie-Cécile Lave, quand on voit que 70% des Américains sont pour l'IVG, qu'il n'y a plus que 25% des Américains qui croient... qui soutiennent la Cour suprême. On a l'impression que cette démocratie américaine, les Américains lui font moins confiance et qu'elle a été noyautée ou elle est prise en otage par une minorité ultra-conservatrice.
Oui, oui, il y a une volonté de contourner la démocratie et de tourner à son avantage les institutions, quitte à prendre des décisions qui sont en contre les valeurs américaines. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans un certain nombre d'États, dont la Géorgie, c'est le changement des règles électorales, des États qui ont des républicains à leur tête, le changement des règles électorales pour rendre très difficile, voire interdire aux Noirs de voter à la prochaine présidentielle. Parce qu'ils voient bien que quand...
Comment on peut faire ça
par exemple, on dit le dimanche novembre, juste avant le mardi où on vote pour la présidentielle, on ne pourra pas faire de vote anticipé. C'est ce jour-là que les communautés noires, après l'office religieux, se rendent ensemble au bureau de vote pour voter. Par exemple, ce genre de choses...
C'est d'interdire des pratiques qui sont très...
C'est permis par la Cour suprême qu'il y a quelques années après une décision qui a cassé le Voting Rights Act de 1965, qui interdisait justement la discrimination dans l'accès au vote. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Géorgie, elle a basculé du côté démocrate. Ça n'a pas plu aux trumpistes. C'est aussi un héritage du trumpiste. Et donc, on change les règles électorales pour que ce soit toujours favorable aux conservateurs, au mépris de la démocratie. Et finalement, on arrive à une situation où il y a une confiscation du pouvoir par des voies totalement, totalement contestables. Et l'apogée de ça, c'est le 6 janvier 2021, l'insurrection au Capitole. Ça, c'est vraiment l'apogée de ça, avec une tentative très forte du clan trumpiste, du camp ou du clan, je ne sais pas comment l'appeler, pour renverser le résultat des élections qui n'étaient pas à l'avantage de Trump. C'est exactement la même logique.
On va revoir les six États, les huit États là, qui ont interdit l'IVG, d'ores et déjà. Ils avaient une loi gâchette, hein, c'est ce qu'on dit. Hein.
Oui. Automatiquement.
Dès que la Cour suprême a supprimé le droit pour tous, ça a été abrogé. Ce sont des États. Alors, parce qu'on parle, voilà, je prends la une. Deux Amériques face à face.
Oui.
Et est-ce que jusqu'où va. Parce qu'on parlait de la violence aussi.
Oui.
Est-ce qu'il y a deux Amériques qui ne se comprennent plus ? Est-ce qu'entre le Missouri,
oui,
qui est le premier État qui a interdit l'IVG dans la nuit et dont le gouverneur s'est réjoui, et la Californie qui donne l'impression d'être à la pointe du progressisme, est-ce que ce ne sont pas deux pays différents ?
Tragiquement, oui, j'emploie ce terme parce que j'appartiens à ce pays et j'aimerais pouvoir élever mes filles dans n'importe quel État en fonction de la météo, du paysage, etc. Mais qu'aujourd'hui, je suis obligé de regarder cette carte que vous pointez du doigt et je ferai mon choix immobilier et de vie en fonction des lois qui sont pratiquées dans ces États et qui peuvent radicalement différer entre ces États que vous avez pointés du doigt, ceux principalement du centre et du sud, et les lois dans les États dits bleus, donc démocrates sur les côtes. Vous nommiez la Californie, bien évidemment. C'est pour ça qu'on peut parler d'une véritable, entre guillemets, balkanisation des États-Unis, avec encore une fois, à la base, un projet de société, de nation, un socle commun qui permet aux Américains, aux Américaines, quelles que soient leurs valeurs et leurs opinions, de continuer à faire nation. Mais il est en train de s'effriter, de s'éroder très rapidement, avec de moins en moins de choses en partage entre ces deux différentes populations qui ne sont pas, je pense, encore une fois, face à face, mais de plus en plus dos à dos.
Et Laurie Kenton, ce qui interroge, c'est que ces petits États, qui sont très peu peuplés, ils sont minoritaires, mais on a l'impression qu'ils arrivent à imposer leurs agendas ou qu'ils ont qu'ils sont la vraie Amérique et qu'ils imposent leurs agendas à la majorité, que sont les États bleus des côtes.
Alors, déjà, juste, je voudrais préciser une toute petite chose, c'est que dans certains États, comme le Texas, par exemple, on a une situation qui est un petit peu double, parce qu'on a un État qui est très républicain, ouais. On a des gros îlots urbains, comme Austin, par exemple, qui sont très, très démocrates. Et donc, on a des Américains qui ont des valeurs très, très démocrates, progressistes, etc.
En fait, c'est la métropole contre la territoire.
Oui. Et dans les États républicains, c'est souvent ça, en particulier au Texas, c'est particulièrement évident. Alors, le déséquilibre institutionnel, il a été voulu. Et donc, en fait, pour empêcher...
Pour représenter les petits États du territoire.
Dans une des deux chambres, parce qu'il y a une des deux chambres, ouais. La Chambre des représentants, qui représente la population. C'est-à-dire que les gros États, comme la Californie, sont surreprésentés par rapport aux petits États qui n'ont qu'un représentant. Mais au Sénat, on a voulu les petits États pour se défendre, pour ne pas être avalés. Au moment où les États-Unis se sont créés, ils ont créé une deuxième chambre qui est une sorte de contre-pouvoir qui favorise volontairement les petits États. Donc, au Sénat, les petits États peu peuplés ont une capacité, non pas d'imposer leur voix, mais une capacité de blocage qu'on retrouve au collège électoral, puisque le collège électoral est composé du nombre des représentants et des sénateurs. Donc, c'est normal qu'il y ait cette capacité de blocage. Elle est voulue par les institutions, en partie.
Alors, on parlait de l'IVG, mais la Cour suprême a également œuvrer concernant le port des armes et devinez dans quel sens. Elle a assoupli le port des armes alors qu'on sort du massacre du Valdez. Regardez ce sujet. Alors, dans les métropoles, hein, on est dévasté par cet assouplissement des règles concernant le port des armes. C'est un sujet de Guillemette Allard.
Aux États-Unis, c'est l'un des États les plus stricts sur les armes à feu. Mais une décision de la Cour suprême vient d'invalider une loi en vigueur dans l'État de New York depuis 1913. Cette loi limitait la délivrance de port d'armes dissimulées aux personnes qui pouvaient craindre d'avoir à se défendre à cause de leur métier ou de menaces. Pour beaucoup de New-Yorkais, revenir sur cette loi est très inquiétant.
Je pense que ce n'est pas intelligent avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces dernières années, avec toutes les fusillades de masse.
C'est stupide, c'est juste stupide. Et je ne pense pas que les gens qui prennent ces décisions pensent aux effets à long terme.
Pour la gouverneure de New York, le deuxième amendement de la Constitution, qui protège le droit de posséder une arme, mais date de 1788, n'est plus adapté à la réalité du pays.
Je voudrais faire remarquer aux juges de la Cour suprême qu'au XVIIIe siècle, on se servait seulement de mousquets. Je ne crois pas que les pères fondateurs pensaient que les chargeurs à grande capacité de nos fusils d'assaut d'aujourd'hui soient couverts par cette disposition.
En fait, Marie-Cécile Lave, une fois de plus, on accuse la Cour suprême de faire de la politique en allant chercher le texte originel à une époque où il n'y avait pas de mitraillette. Pour dire si, mais on peut avoir une arme en tout lieu, en tout point des États-Unis, sans qu'on vous ennuie.
Oui, alors deux choses. On voit bien que l'argument pro-life, hein, défendu par, les anti-avortements, ne tient pas ici quand on voit les...
Parce que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont contre l'avortement et qui sont pour le port de l'arme.
Ce sont les mêmes qui sont pour la liberté individuelle, sauf pour les femmes, à disposer de leur corps. Et puis... La question du pro-life, on pourrait le voir de façon très 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 ironique. Et la deuxième chose, c'est que dans le cas de l'avortement, on dit non, c'est aux États fédéraux à décider. Et pour le port d'armes, non, il faut que ce soit une décision nationale. Ah. Donc, on voit bien que ces éléments-là prouvent à eux seuls que ce sont des décisions ultra idéologiques et non pas dictées par la réalité de ce que vivent les gens et la réalité des drames qui ont lieu tous les jours.
La Cour suprême n'est pas là pour appliquer la loi, mais elle est là, en fait, elle fait de l'idéologie.
Elle a un agenda idéologique. Et ces deux décisions à 24 ou 48 heures d'intervalle, qui sont fondées sur des choses complètes, des arguments finalement contradictoires, le prouvent.
Laurie Kenton.
Sur la liberté de disposer de son corps, My Body, My Choice, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, les anti-vax sont surreprésentés chez les Républicains, ouais, et disent exactement ça. On ne peut pas m'imposer un vaccin parce que j'ai le droit de disposer de mon corps. Et en même temps, My Body, My Choice, pour l'avortement, non, pas du tout. Donc c'est intéressant d'avoir ce décalage.
C'est même la même chose sur les masques.
Oui.
Pour refuser le port du masque. Mais juste pour terminer là-dessus.
Mais ce sont les mêmes. Juste un mot, Gary Garfenwick. De quoi peut-on parler dans les déjeuners aux États-Unis maintenant? Puisque que ce soit l'IVG, on a l'Amérique, alors vous vous dites dos à dos,
oui.
Les armes dos à
dos.
Est-ce que comme ça, tous les sujets dont on parle sont complètement hystérisés et radicalisés, ce qui fait que c'est compliqué maintenant entre Américains de faire un barbecue?
Oui, bien sûr.
Il y a des barbecues politiques.
Entre ma sœur qui vit à Dallas, au Texas, mon frère qui vit à Los Angeles, en Californie, et ma grand-mère qui vit sur la côte Est, mais dans une partie conservatrice. Trouver des sujets au moment de Thanksgiving, qui est vraiment la fête, qui réunit tout le monde, trouver des sujets apolitiques, c'est extrêmement compliqué parce que tout l'a été, et tout, vous l'avez très bien dit, a été hystérisé. Et cette Cour suprême, qui est là en réalité pour tracer les grandes lignes sociétales dans un projet de société, était en train de dire très concrètement la même semaine quoi ? Eh bien que les armes à feu aux États-Unis ont plus de droits que les femmes. Et donc c'est ça, cette société dans laquelle on vit, et c'est celle-là dans laquelle on doit chercher les uns et les autres à s'entendre et à discuter de sujets alors où il n'y a pas forcément des consensus, mais on ne risque pas de se brouiller à vie, et ça devient effectivement de plus en plus compliqué.
Alors à la manœuvre, on en a parlé, Donald Trump qui a nommé trois juges conservateurs sur les neuf que constitue la Cour suprême. Donald Trump qui néanmoins pourrait être rattrapé par cette fameuse journée du 6 janvier 2020, donc c'était 2021, c'est l'assaut contre le Capitole. Il y a une enquête parlementaire qui est menée en ce moment, qui passe à la télé, et vous allez le voir, elle est très ennuyeuse, très ennuyante, enfin très compromettante pour l'ancien président américain, sujet de Loïc Delamornay et Thomas Donzel.
Les images d'une démocratie vacillante au pied du Capitole avaient déjà fait le tour du monde. Mais hier soir, l'Amérique a vu qu'il y avait bien d'autres vidéos, pour la plupart encore jamais diffusées. Comme ces émeutiers trumpistes s'acharnant sur des policiers à terre à coups de crosse de hockey.
Ils ont franchi la ligne. Toutes unités, reculez-vous.
Les deux heures d'émission de la commission d'enquête de la Chambre des représentants avaient un but. Montrer aux Américains, minutage précis à l'appui, que ce chaos a été organisé en amont. Comme le prédit cette glaçante interview d'une supportrice de Donald Trump avant les événements.
Je n'ai pas le droit de vous révéler ce qui va se passer aujourd'hui, mais vous allez voir par vous-même. Quelque chose va arriver.
Dans le cercle rapproché, il y a cet éclairage saisissant du ministre de la Justice, tentant de contenir pendant des semaines les lubies du président.
Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec l'idée que l'élection avait été volée. J'ai dit au président que c'était des conneries.
Comme dans un feuilleton, la commission annonce qu'elle montrera comment Donald Trump aurait dit « Pendre le vice-président Mike Pence, c'est une bonne idée, il le mérite ». La députée Liz Cheney est l'une des rares républicaines de la commission anti-Trump. Elle met en garde son parti.
À mes collègues qui ont défendu l'indéfendable, je vous dis qu'un jour Donald Trump ne sera plus là, mais votre déshonneur restera.
Les conclusions de la commission resteront principalement symboliques. Le Sénat, la chambre la plus puissante, a refusé d'ouvrir une commission d'enquête bloquée par les élus républicains.
On a vu, Laurie Kenton, cette républicaine désolée de voir ô combien Donald Trump avait finalement changé l'ADN de ce parti, les républicains, le Grand Old Party, c'est pas comme ça qu'on l'appelle, le grand parti enfin, historique des États-Unis qui a ordonné plein de présidents et qui maintenant est devenu un parti radicalisé, hystérisé.
Le parti de Lincoln qui a aboli l'esclavage dans les années 1860. Et Liz Cheney n'est pas exactement une gauchiste. Hein. C'est la fille de Dick Cheney qui était le vice-président de George Bush. C'est-à-dire qu'elle a
un pédigré de droite.
Et surtout, quand on regarde ses votes au Congrès, ce n'est pas du tout une progressiste. Hein. Donc elle a ses brevets de bonne droite
américaine
au Congrès, vraiment sans aucune ambiguïté. Et pourtant, elle fait partie des très rares qui ont décidé de participer à cette commission et de soutenir publiquement que Trump n'a pas perdu l'élection, qu'on lui a pas volé l'élection avec un autre représentant qui a décidé lui de ne pas se représenter parce que c'est des situations invivables. Liz Cheney a été carrément virée de son parti dans le Wyoming.
Si on ne fait pas allégeance à Donald Trump en tant que républicain, on est le mouton noir.
Mais ce sont des loyautés locales. C'est-à-dire que ce n'est pas Trump qui décide qui est viré ou pas. Ce sont des loyautés locales. Le parti républicain du Wyoming a décidé que Liz Cheney était une traîtresse et donc qu'elle était... et donc un certain nombre de républicains comme ça sont mis dehors, en dehors de leur parti parce que l'appareil local a été complètement cannibalisé par des Trumpistes. Et ça s'est fait de manière tout à fait légale. Hein. C'est-à-dire que c'est des rapports d'influence. Et généralement, ceux qui sont un petit peu contre sont poussés vers la sortie, démissionnent, écœurés, etc. Un certain nombre de représentants, on leur met une primaire et donc ils ont un adversaire ultra-conservateur. Avec le jeu des primaires, généralement, on a une prime aux plus conservateurs. Donc les plus modérés, même si eux-mêmes sont conservateurs, se trouvent poussés dehors. Et donc, on a une forme de cannibalisation du parti par les éléments les plus radicaux.
Marie-Cécile Nave, on voit que les Républicains n'en ont pas fini avec Donald Trump. Est-ce que l'Amérique également n'en a pas fini avec Donald Trump? Il pourrait revenir en 2024?
Alors, il faut se rappeler que... faut toujours garder en tête que Trump, c'est un revanchard. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il se présente en 2016 pour prendre sa revanche sur Barack Obama, qui s'est moqué de lui à un dîner des correspondants de presse à cause du certificat de naissance. Comme quoi... il ne serait pas vraiment américain, etc. Là, il veut prendre sa revanche absolument sur Joe Biden. Donc oui, il est dans cette dynamique-là. Le vrai test pour savoir si le Trumpisme a gagné, est toujours dominant au sein du Parti républicain, ça va être les midterms de novembre, les élections de mi-mandat, intégralité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, et puis tout un tas d'élections locales, on en parlait tout à l'heure, qui remettent leur siège en jeu. Si on voit que le courant trumpiste, finalement, est gagnant dans les primaires républicaines qui ont lieu en ce moment, et puis gagne après, les trumpistes gagnent contre les démocrates, oui, il sera en position de force. Si c'est le contraire, il va perdre en influence, et peut-être d'autres leaders, comme Ron DeSantis, par exemple, hein, en Floride, gouverneur de Floride, pourrait prendre la suite de Trump. Mais oui, il est toujours dans une dynamique de prendre sa revanche en 2024 et le Parti républicain a peur de lui. Je ne dirais pas que c'est un faiseur de roi, c'est trop fort de dire ça. Et puis, le mensonge sur l'élection volée, c'est une machine à cash aussi. Ça lui permet, c'est des millions et des millions de dollars qui sont récoltés par des dons de soutien pour financer son éventuelle future campagne.
Mais justement, Gallagher Fenwick, parce qu'on se dit que ce n'est pas possible qu'il pense sincèrement qu'on lui a volé l'élection, est-ce qu'il n'est pas totalement opportuniste, Donald Trump? Tout à l'heure, on a dit c'est la volonté de Dieu sur l'IVG, alors qu'on sait très bien qu'il ne va pas à la messe, qu'il n'est pas du tout ultra-religieux. Est-ce qu'il ne surfe pas? Il épouse la cause qui va lui permettre d'avoir sa revanche ou de gagner.
C'est un homme d'affaires, Donald Trump, dont le seul talent est d'avoir, si vous voulez, un sens de ce qui est dans l'air du temps et d'exploiter cela et d'aller dans le sens qu'il croit être justement celui de l'air du temps. Et en l'occurrence, il a une base qui lui est férocement attachée et qui ne le lâchera pour rien au monde. Et ça, Donald Trump le verbalise lui-même. Rappelez-vous qu'il avait dit une fois « je pourrais tuer quelqu'un en plein jour sur la 5e avenue et ces gens continueraient de me suivre et je m'en sortirais, j'en sortirais indemne ». Il a fait du fait d'échapper aux condamnations une spécialité, soit en gagnant, soit en payant. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on trouve tout cela absurde, mais la technique Donald Trump consiste à répéter soit des mensonges, soit des absurdités ad nauseam, jusqu'à ce que les gens en face le croient, le mettent en pratique, et donc dire l'élection est volée. Les gens, beaucoup d'entre eux qui sont allés au Congrès, et c'est ce qui émerge notamment de ces auditions, pensaient sincèrement qu'ils étaient là pour défendre, disait-il, la démocratie. Et donc, l'héritage du trumpisme, aujourd'hui, et on l'a vu pendant sa mandature, mais ça continue d'être ressenti jusqu'aujourd'hui, ce sont ces trois piliers de la démocratie américaine qui vacillent et qui tremblent. Est-ce que c'est parce qu'elles sont désormais obsolètes qu'il faut les réformer? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on est juste dans un moment où les progressistes sont mauvais perdants et qu'il faut qu'ils essayent de se mobiliser aussi efficacement et férocement que le camp ultra-conservateur en face? L'avenir proche, comme nous le disait Marie-Cécile, va nous le dire.
Marie-Cécile, là.
Il y a la pression aujourd'hui sur le ministre de la Justice pour poursuivre Donald Trump pour complot, obstruction à la justice, etc., au vu de ce que dit la commission d'enquête qui, très clairement, a exprimé les choses ainsi. Donald Trump a fomenté, encouragé et soutenu un complot contre la démocratie américaine.
C'était plus préparé que ça n'en avait l'air,
Ce qui est important, c'est de voir deux choses. Il y a une base qui est ultra fidèle à Trump, mais il y a également une détestation des démocrates qui parfois est supérieure à l'attachement aux républicains, voire à Trump. Trump est vu comme un moindre mal dans un certain nombre de cas. Parfois, c'est carrément un prophète, une loyauté absolument aveugle, mais parfois, il est vu comme moins dangereux que les démocrates, et notamment que les démocrates réduits à leur frange la plus radicalement progressiste. Donc, il y a aussi ce calcul qui est fait. Mieux vaut Trump, parce qu'on sait à peu près à quoi s'attendre, que les démocrates qu'on diabolise.
Alors justement, les démocrates qui sont accusés d'être trop progressistes, eh bien cela a donné en Floride, ça donne une bataille épique entre le gouverneur de Floride et Disney, le premier accusant le second de faire la promotion de la cause homosexuelle. Vous voyez ce sujet en Floride de Loïc de la Mornay.
D'après le slogan publicitaire, c'est l'endroit le plus joyeux et magique sur Terre, Disney World à Orlando. Mais derrière les sourires de Mickey et les attractions, se joue une bataille sans merci. Voici l'histoire d'une guerre entre l'une des plus influentes compagnies au monde et l'État de Floride, une guerre culturelle qui fracture l'Amérique. Tout démarre avec le vote d'une loi au Parlement de Floride qui interdit aux professeurs de l'État, jusqu'en CE2, d'évoquer l'orientation sexuelle ou l'homosexualité. Disney, qui a ces dernières années renforcé tous ses messages vers la diversité et l'inclusion, monte au front et condamne publiquement cette loi avec le relais de ses acteurs, comme l'un des héros de la franchise Star Wars.
C'est une loi absolument ridicule et insensée. Et j'espère que tout le groupe Disney va s'y opposer avec toute sa puissance.
Riposte du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un proche de Donald Trump, il révoque le statut spécial du domaine de Disney World qui, depuis plus de 50 ans, lui accordait autonomie et allègements fiscaux.
Cet État est gouverné par l'intérêt des citoyens de Floride et pas par les exigences des dirigeants d'une société californienne.
Dans la circonscription de Cap Canaveral, nous rencontrons le parlementaire Randy Fine. C'est l'un des initiateurs de la loi.
C'est peut-être pas sanglant, mais c'est quoi? C'est une bataille de civilisation?
Ah, c'est une guerre. Ici, aux États-Unis, nous sommes en guerre pour nos enfants. Nous pensons que l'école est faite pour leur apprendre à écrire, à lire, enseigner les maths, les sciences. Mais d'autres gens croient que l'école est là pour endoctriner, laver le cerveau des enfants sur la théorie du genre, la politique, et leur dire quoi penser, et non pas apprendre à penser.
Mais cette professeure des écoles, homosexuelle, réfute catégoriquement l'idée qu'elle endoctrinerait ses élèves.
Sur la question d'endoctriner, je peux vous montrer ce que j'enseigne à mes élèves. Ça n'a rien à voir avec ce que ces gens imaginent. Comme les forcer à devenir homosexuels, il n'y a rien de tout ça dans nos programmes.
Pourtant, depuis le vote de la loi, son quotidien a bien changé. Elle se sent sous surveillance.
On m'a dit, retire la photo de toi et de ta compagne sur ton bureau. Ne montre aucune photo sur ton téléphone. Ne parle à personne de ton homosexualité. J'ai l'impression d'être forcée à retourner me cacher dans mon placard.
Quelles pourraient être les conséquences si on voit ces photos, par exemple?
Tout simplement, je pourrais être virée.
Alors, Marie-Cécile Nave, la cause homosexuelle, on peut la mettre aussi, c'est la même ligne de fracture par rapport à tout ce dont on parle depuis le début de l'émission, les armes à feu ou l'IVG?
Oui, c'est-à-dire on interdit aux professeurs de parler d'égalité et de tolérance. Tout simplement. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une obsession d'une partie de la droite, pour ne pas dire de l'extrême droite américaine, sur toutes ces questions d'égalité, d'émancipation, de droit. Et on va voir d'ailleurs dans les mois ou les années qui viennent de quels États, parce que ça, c'est sûr ça va arriver, de quels États viendront des lois et des sollicitations de la Cour suprême pour revenir sur un certain nombre d'acquis en matière d'égalité des droits. On parlait tout à l'heure du mariage entre personnes de même sexe. Il y en aura... C'est un exemple, il y en aura sans doute d'autres. C'est le premier pas vers ce genre de démarche.
Alors en même temps, Laurie Kenton, vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi une radicalisation de la droite face à ce qui est vécu comme une offensive progressiste de l'aile gauche du Parti démocrate, le fameux wokisme, sans qu'on comprenne très bien ce que ça veut dire. Mais quand même, moi, j'ai été frappé de voir que l'aile gauche, alors c'est au Canada que ça se passe, hein, mais a réussi à interdire, la gauche canadienne a réussi à interdire des bibliothèques, des Tintins, des Astérix ou des Lucky Luke, parce qu'il véhiculait des clichés sur la minorité des Indiens. C'est pas ça exactement l'histoire ?
En fait, c'est plutôt l'extrême droite qui interdit les livres, voire qui les
brûle. Oui, alors ça on sait. Mais ce que je veux dire, c'est que de l'autre côté, est-ce qu'il y a, c'est une question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une radicalité qui peut être ressentie comme une menace pour les gens de droite et donc qui deviennent du coup ultra droite.
En fait, les deux se renforcent et surtout ce qui est plus important, c'est que on dépasse le simple côté factuel, c'est-à-dire qu'on se diabolise des deux côtés et on pense que l'autre est encore plus néfaste que ce qu'il est vraiment. On voit ça par exemple.
Il cache son jeu.
Non, c'est-à-dire que on a l'impression que l'autre camp fait encore plus que ce qu'il fait en réalité. On voit ça, par exemple, les républicains sont hyper contre les programmes fédéraux et quand on leur demande s'ils touchent de l'argent de tel ou tel programme, ils disent « ah oui ». Donc en fait, ils sont contre l'idée du programme fédéral, ouais. Mais la pratique, en fait, ils touchent l'argent quand même. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça où sur le principe, ils sont contre, mais sur la réalité, ils sont pour. Et il y a cette idée d'Amérique dos à dos est vraiment, plus que face à face, est vraiment importante parce qu'on ne se parle plus, on ne se comprend plus et surtout, on se diabolise. C'est-à-dire que si les gens se parlaient, ils verraient qu'ils ne sont pas si affreux les uns que les autres. Mais comme ils ne se parlent plus, ils s'imaginent. Et on leur dit, notamment dans les médias des deux côtés, que les autres sont encore plus affreux qu'ils le sont en réalité. Donc il y a une méfiance totale et un peu exagérée des deux côtés.
Gallagher Fenwick, comment vous l'expliquez cette... Autrefois, l'Amérique, on se souvient d'ailleurs, on admirait ce peuple parce qu'une fois qu'ils avaient élu un président, tous les Américains disaient « c'est mon président ». Maintenant, on a l'impression, ce que décrivait à l'instant Laurie Kendon, que les deux extrêmes sont hystérisés, ne se parlent plus, se diabolisent l'un l'autre. Comment expliquez-vous cette dérive de ces deux Amériques qui ne sont pas face à face, mais dos à dos ? C'est quoi ? C'est les médias les réseaux sociaux qui hystérisent ?
Il ne faut pas oublier qu'il faut regarder l'histoire de ce pays qui s'est quand même construit dans la violence, d'abord par l'effacement d'un peuple. Ensuite, il y a eu une guerre civile mortelle aux États-Unis qui était une véritable hécatombe humaine. Donc voilà, il y a un projet de société qui s'est construit. Est-ce qu'il est en train d'atteindre une phase d'obsolescence et de réformes nécessaires de manière urgente ? En tous les cas, c'est vrai qu'on voit à la vitesse grand V ce qui ressemble très fortement à un délitement, à une déliquescence et une désintégration d'un projet avec des camps, comme le disait très bien Loïc, qui ne se parlent plus. Quand vous demandez à ces mêmes personnes en Floride qui soutiennent Ron DeSantis à quoi est-ce qu'elles s'opposent, elles vous disent le wokisme. Et demandez-leur qu'est-ce que c'est le wokisme. Elles sont incapables.
Alors on dit que c'est déconstruire
définir.
Un pays qui aurait été créé par
mais,
l'homme blanc et qui lui aurait donné un avantage systémique.
Non. Oui, mais en fait, si vous voulez.
C'est compliqué déjà ce que je viens de dire.
Oui, non, mais voilà, exactement, c'est très compliqué. En réalité, on accole des étiquettes au camp en face et on se bat contre des idées. Voilà, qu'on n'est soi-même pas capable de définir. Et ça, c'est effectivement très, très grave et très dangereux. Et ça se manifeste physiquement. Oui, ça se manifeste physiquement par des affrontements dans les rues. Et c'est ce dont Joe Biden a très, très peur.
Il a dit, c'est vrai qu'au terme de son intervention, s'il vous plaît, n'ayez pas de violence.
Et la violence est en train d'avoir lieu dans les rues de certains États où s'affrontent encore une fois ces différents groupes.
Quand on a des difficultés à définir un mot et une notion, c'est bien que cette notion, elle repose sur pas grand-chose. En l'occurrence, le wokisme. Mais il faut voir qui détient les leviers du pouvoir. C'est pas les wokistes aux États-Unis qui détiennent les leviers du pouvoir important dont on vient de parler aujourd'hui. C'est l'extrême droite. C'est pas les wokistes qui sont à la Cour suprême. C'est pas les wokistes qui dirigent la Floride, la Géorgie, le Texas. Et encore moins le parti républicain, mais ni le parti démocrate. Le wokisme, ça veut rien dire. C'est l'extrême droite le problème. C'est l'extrême droite qui fracture l'Amérique.
Est-ce qu'on a coutume de dire que ce qui se passe en Amérique finit par traverser l'Atlantique ? Vous avez peur que cette fracture, sur tous les sujets dont on vient de parler, alors pas les armes à feu, encore que, mais vous sentez les germes de cette fracture aussi en Europe sur la question de l'IVG, sur la question homosexuelle ? Oui ?
Bien sûr, mais plutôt que de parler d'importation, ça n'a pas de sens de parler d'importation. Il faut parler de circulation des idées. Les idées, elles circulent d'un pays à l'autre, du nord au sud, du sud au sud, du nord au nord, etc. Il y a des énormes mouvements en faveur de l'émancipation, contre le racisme, pour la défense des droits des femmes qu'on a vu en Argentine, MeToo, etc. Et puis, il y a aussi des forces réactionnaires qui circulent d'un pays à l'autre. Il y a quelques années, il y a eu une manifestation entre... une conférence organisée par un certain nombre d'États opposés à l'avortement, avec l'Arabie Saoudite, le Brésil, la Pologne, les États-Unis, qui ont signé une espèce de charte morale disant, voilà, nous allons nous soutenir pour interdire l'avortement et lutter contre les droits des femmes. Il y a une circulation des idées dans un sens comme dans l'autre. Et en Europe, on le voit bien, en Pologne, à Malte, tentation en Hongrie aussi d'interdire l'avortement. Toutes ces idées-là circulent d'un continent à l'autre, bien sûr.
Gallagher Fenway, vous qui avez la moitié du cerveau américain et l'autre français. Ce qui est très étrange. Les germes aussi dans le côté français.
Oui, et c'est une des premières fois de ma vie où je souhaite effectivement que la France s'écarte de ce qu'on a pu appeler le modèle américain, réfléchisse à une autonomisation et à une manière de se définir différemment qu'en important effectivement ce qui peut venir des États-Unis, qui n'est pas toujours néfaste.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve. Je rappelle que l'Info C'est Clair est disponible en podcast audio gratuit sur toutes les bonnes plateformes. Si vous tapez l'Info C'est Clair et hop, c'est gratuit. Vous l'écoutez quand vous voulez. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée. À demain.